chronique de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Un billet d'Asie consacré au cinéma. Soyons un peu intellectuels pour une fois. Le cinéma d'Asie est abondant en ce moment sur nos écrans. Tout d'abord, John Webb, le juste de Nankin. C'est un film plutôt un peu confidentiel qui est sorti en avril à Paris, mais pour lequel le bouche-à-oreille a très bien fonctionné. John Webb, de Florian Gallenberger. La guerre mondiale pour les Chinois a en fait commencé en 1931 avec le fameux mémoire Tanaka et l'invasion de la Mandchourie érigée en Mandchoukuo avec Puyi, le dernier empereur de Chine, en souverain fantôme. Et elle ne s'est terminée non pas en 1945, mais seulement en 1949, au terme de 4 années d'une guerre civile épouvantable, close par la proclamation de la République populaire. Entre les deux dates, une occupation japonaise, certes partielle, mais d'une cruauté sans égale. Le film de Florian Gallenberger nous compte un des épisodes parmi les plus barbares de cette occupation, le sac de Nankin par l'armée nippone en décembre 1937. À cette époque, John Webb est installé en Chine depuis, il le dit au début du film, 27 années et 142 jours. Il dirige à Nankin, l'ancienne capitale symbolique au bord du Yangtze, une puissante usine Siemens qui fournit l'électricité à toute la région et dirige la construction de barrages. Allemand, puissant, autoritaire, inscrit au parti nazi, il y est bien obligé pour garder sa situation, il est conscient de son pouvoir, il aime la Chine et il est rappelé par le Reich en Allemagne avec regret. Shanghai vient de tomber aux mains de l'armée japonaise. Le bombardement de Nankin commence quelques jours avant Noël. Dans la panique la plus totale, avec les diplomates britanniques en poste, quelques attachés consulaires d'ambassades variées, une institutrice française, il organisera une zone refuge sans militaires qui sauvera près de 200 000 personnes. Le film retrace cette odyssée intérieure, équivalente en quelque sorte aux 55 jours de Pékin dans une version moderne. Ulrich Turcourt campe un John Webb plein de vérité, d'humanité, conscient de sa propre fragilité, très au-delà des clivages politiques. Steve Buscemi, plutôt habitué des westerns ou des Clint Eastwood, est un chirurgien étonnant, pathétique et grandiose dans ses fureurs. Le film est moins subtilement pervers que Lost Caution de Ang Lee avec Tony Leung. Il est moins romancé que Les Orphelins de Huangshi de Roger Spottiswoode, ce dernier film retraçant la véritable histoire du journaliste anglais George Hogg qui sauva dans les mêmes conditions les enfants d'un orphelinat chinois en les emmenant aux portes du désert de Gobi. John Webb, le juste de Nankin, retrace avec fidélité ce terrible moment d'histoire, appuyé sur le journal que John Webb tint pendant ses semaines implacables. Le film a l'intérêt de mélanger habilement des documents d'archives et des images modernes. Il nous plonge dans les contradictions terribles de la diplomatie de guerre et de la volonté de conquête. C'est souvent bouleversant, voire à la limite du révoltant. Il y a des chances pour que John Webb, le juste de Nankin, se soit échappé des grands écrans très rapidement. Mais surtout, ne le ratez pas lorsqu'il reparaîtra en DVD ou sur une chaîne de télévision. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 300 000 habitants de Nankin furent exterminés pendant cette occupation et ce sac, malgré l'héroïque sauvetage de John Webb. Ce dernier, rentré en Allemagne, participa tout de même à l'effort de guerre du Reich, malgré, semble-t-il, ses convictions personnelles. En 1945, les Alliés le traitèrent, d'ailleurs avec juste raison, en nazi, quand on sait ce qui s'est passé dans les usines Siemens pendant le Troisième Reich. Ruiné, il eut une fin de vie modeste et il mourut, oublié, en 1957. La République fédérale ne lui a rendu hommage qu'en 2003. Surnommé le Schindler de la Chine, un monument à sa mémoire est érigé et ne cesse jamais d'être fleuri à Nankin. Dans un tout autre registre, plongeons dans un passé plus récent, une introspection des années 1960, moment laborieux pour la société japonaise d'une certaine libération des mœurs dans les grandes villes. S'inspirant d'un beau récit de Haruki Murakami, le très doué Tran Anh Hung, l'auteur vietnamien de La délicieuse odeur des papayes vertes, nous offre cette balade de l'impossible, romantique, triste mais jubilatoire, pleine de réserve mais provocatrice aussi. En pleine révolte étudiante, deux amis inséparables et la petite amie de l'un d'eux. L'un des deux amis se suicide, son camarade ne s'en console pas, puis rencontre par hasard la jeune fille et en fait sa maîtresse. Celle-ci, une fois l'acte accompli, disparaît à son tour sans laisser aucune trace. Le désir et la culpabilité hantent notre héros. Le souvenir et la nécessité d'oublier cohabitent sans arrêt. L'astuce très poétique du film est d'avoir rythmé le récit avec le si romantique Norwegian Wood des Beatles. Au fond, on y va de sa larme, de son grand cœur blessé. Les images sont subtiles, le montage mouvant, fluide. On pense à Kim Ki-duk, chef de file du cinéma coréen, à ses films presque muets, à ses jeunes locataires, ou à l'hiver de printemps, été, automne, hiver. Tran Anh Hung produit peu. Il avoue mettre très longtemps à concevoir et à fabriquer un récit. Mais il mérite qu'on l'attende, qu'on lui murmure. C'est très beau, continuez, on vous attend, car on ne peut que murmurer, tant l'équilibre du bonheur est fragile. Pour terminer ce billet cinématographique, la sélection officielle du 64e Festival de Cannes a proposé deux films japonais. L'un de Takashi Miike, ce cinéaste très déroutant, pour la première fois à Cannes, avec un long métrage en 3D, Ishimei, film de sabre contant la mort d'un samouraï, et l'autre de Naomi Kawase, plus connue, Anesu no Tsuki, qui est un film historique qui se passe au VIe siècle en armure et kimono de soie. Le jury, présidé par le très américain Robert De Niro, n'a pas été sensible à ces japonaiseries. Le palmarès est très franco-américain, assez prudent. Il a couronné pour la palme le film de Terrence Malick, et puis aussi Mae Wen, les frères Dardenne, Christine Dunst, Jean Dujardin. Finalement, la moisson asiatique est très mince. Je crois que l'événement le plus important de ce 64e festival pour le cinéma asiatique est, dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs, le retour, après 3 ans de silence, du grand Kim Ki-duk, le grand cinéaste coréen. Attendons son prochain film une fois qu'il sera définitivement remis de sa dépression asiatique.